VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Togo, l'opposition appelle à une journée Togo-mort vendredi, tout en annulant ses marches prévues demain mardi, mercredi et jeudi, pour se consacrer, dit-elle, à la visite aux populations éprouvées par les répressions des manifestations de la semaine dernière. C'est ce qui ressort du communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, dans lequel les 14 partis de l'opposition invitent les populations à cesser toute activité professionnelle et économique et à se recueillir à la mémoire de leurs martyrs vendredi. L'opposition exhorte aussi ses partisans à rester mobilisés pour les actions décisives qu'elle annoncera pour la semaine du 2 octobre 2017. Rappelons qu'au moins 4 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées lors de manifestations organisées la semaine dernière à l'appel du Parti national panafricain PNP, rejoint en septembre par d'autres partis de l'opposition. Les opposants réclament le départ du président Faure Gnassingbé du pouvoir. Réponse du gouvernement togolais, un projet de réforme constitutionnelle prévoyant notamment de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais l'opposition rejette ce texte en dénonçant la non-rétroactivité de la mesure, ce qui permettrait au président Gnassingbé de se représenter aux élections de 2020 et 2025. Au Mali, 3 casques bleus ont été tués, 5 autres grièvement blessés dans la région de Gao tôt dimanche matin lorsqu'un véhicule de la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, a heurté un engin explosif. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les transporteurs sur les routes de Gao sont les premiers à se plaindre du nouveau mode opératoire des djihadistes et autres terroristes qui sont en train de mettre des mines et des engins explosifs sur les différentes routes. Des engins explosifs qui sont aujourd'hui à la base de plusieurs attaques. C'est ce qui est arrivé à un véhicule logistique de la MINUSMA qui a heurté un engin explosif dans la localité de Kobe, à 35 km de Gao sur la route menant à Afoud. Ce sont des casques bleus qui escortaient un convoi sur l'axe Anefif-Gao. Le bilan est de 3 casques bleus tués et 5 blessés, dont certains très graves, qui ont été évacués sur la ville de Gao. Sur le coup, une force d'intervention rapide a immédiatement été déployée sur les lieux pour sécuriser le périmètre et permettre la prise en charge des victimes. En tout cas, les attaques terroristes ont doublé d'intensité ces derniers jours dans les régions nord du Mali. Avant cette attaque matinale à Gao, il y a eu en milieu de semaine des obus lancés sur le camp de la MINUSMA à Kidal. Une triple attaque à la roquette revendiquée par le groupe de djihadistes maliens Yad Agali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nigeria, les procès de 1600 membres présumés du groupe djihadiste nigérian Boko Haram détenus dans des camps militaires à travers le pays commenceront le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministère nigérian de la Justice dans un communiqué dimanche. Le ministre de la Justice Abubakar Malami a confié ces dossiers à plusieurs procureurs et des avocats seront fournis aux suspects par le Conseil d'aide juridique. Pour parler de l'enjeu de ces procès, Timothée Donoma a contacté le professeur Houdou Ayouba, enseignant de sciences politiques à l'université de Zaria.
Les Nigériens attendaient ça depuis très longtemps pour qu'on sache vraiment ceux qui sont derrière Boko Haram. Il y a eu des accusations, il y a eu des soupçons, mais on ne sait pas exactement ceux qui sont derrière. Et tout le monde ici espère que ce jugement devant les tribunaux donnera des réponses à ces questions.
On parle de 1600 militants présumés de Boko Haram qui seront jugés. Qu'est-ce que cela représente comme défi au plan de la sécurité?
C'est vrai que c'est un grand nombre, 1600, c'est même plus. Bon, il y a ceux qui ont été arrêtés lors des combats et puis ceux qui ont été arrêtés dans les villes, les soutiens au Boko Haram, beaucoup de monde, personne n'avait jamais été jugé. Il y a aussi des politiciens qui sont soupçonnés d'avoir aidé Boko Haram.
Le professeur Houdou Ayouba, enseignant de sciences politiques à l'université de Zaria, dans l'état de Kaduna, au Nigeria.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, les professeurs de l'université de Kinshasa et de l'université pédagogique de la capitale ont entamé leur 4e semaine de grève. Leur revendication, une revalorisation des salaires et le droit de choisir leur recteur. Du coup, les cours et les examens sont perturbés, nous dit notre envoyé spécial Abdourahmane Dia.
Contrairement aux médecins qui ont mis fin à leur mouvement de grève après un accord avec l'État, les professeurs d'université, eux, sont toujours à l'écoute du gouvernement. Ils demandent l'application des accords signés en 2010. Professeur Mathieu Bokolo est vice-président du syndicat des professeurs de l'université de Kinshasa.
Il fallait ramener les salaires à 2 000 $ et l'améliorer progressivement. Mais depuis 2010, l'amélioration n'a pas eu lieu, mais par contre, les 2 000 $ s'effritent. Et suite à la dépréciation de la monnaie, nous ne sommes plus qu'à 1 100 ou 1 200 $. Et voilà que nous avons perdu pratiquement plus de 40% de notre pouvoir d'achat.
Les enseignants dénoncent aussi le manque d'investissement dans l'enseignement, ce qui a un impact négatif sur la qualité de l'enseignement. Professeur Bokolo.
C'est une situation très grave qui compromet même le développement du pays. Nous n'avons pas d'allocation de recherche, nous n'avons pas d'allocation pour faire la documentation ou la diffusion de nos savoirs, et ça pose un problème. Il n'y a rien, il n'y a pas de financement de la recherche, il n'y a pas de financement des équipements.
Les enseignements et le calendrier académique souffrent de ce bras de fer. Les étudiants essayent de faire avec cette incertitude.
Nous, on continue à travailler, à bosser. On ne sait pas si ça va aller jusqu'au bout ou quoi. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a commencé la deuxième session, mais je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout. Mais ça nous affecte parce que les temps aussi de préparation et puis l'année aussi. Normalement, on commence le mois d'octobre, mais nous sommes au mois de septembre et octobre déjà. En faisant la deuxième session, on va entrer dans le mois de octobre. Donc ça va pénaliser aussi le calendrier académique.
Mais son camarade Kadima est plutôt optimiste.
À mon avis, dans notre faculté de médecine, cette grève en fait n'a rien perturbé. Parce que normalement, on avait fini la première session. Maintenant, la deuxième session commence aujourd'hui.
Abdourahmane Dia, Kinshasa, VOA Afrique.
Relations États-Unis-Afrique, Washington a élargi dimanche son décret migratoire à 3 nouveaux pays. En Afrique, c'est le Tchad qui a été ajouté à la liste des nations dont les ressortissants sont interdits d'accès au territoire américain. Par contre, le Soudan en a été retiré, Jean-Roger Bion.
Le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela ont été intégrés à la liste des pays visés par le décret migratoire américain pour des manquements à la sécurité sur leurs voyageurs et un manque de coopération avec Washington. Le Tchad, bien qu'il soit un partenaire important des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, a été ajouté, explique le décret, par la présence sur son sol de différents groupes djihadistes comme l'organisation État islamique, Boko Haram ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. Par ailleurs, N'Djamena ne partagerait pas de manière adéquate les informations concernant la sécurité du public et le terrorisme. Les mesures de restriction sont différentes selon les pays. Tous les citoyens du Tchad et de la Corée du Nord sont interdits d'accès au territoire américain, alors que l'interdiction se limite aux membres d'une longue liste d'instances gouvernementales vénézuéliennes et à leurs familles. Le Soudan, l'un des 6 pays musulmans visés par le précédent décret, a été retiré de la liste. Le nouveau texte, qui entrera en vigueur le 18 octobre pour les 3 nouveaux pays, interdit ou limite l'entrée aux États-Unis des ressortissants étrangers de 8 pays au total, avec l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie et le Yémen.
Moyen-Orient maintenant, en Irak, malgré les injonctions des autorités de Bagdad et même un arrêt de la Cour suprême irakienne ordonnant une suspension de scrutin, la région autonome du Kurdistan irakien tient ce lundi son référendum d'autodétermination. Les précisions de Timothée Donangbaï.
Les dirigeants kurdes irakiens entendent bien poursuivre la marche vers l'indépendance. Dimanche, le président du gouvernement régional du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, a appelé les habitants à se rendre massivement aux urnes et à voter dans la paix. Nous sommes parvenus à la conclusion que l'indépendance nous permettra de ne pas répéter les tragédies du passé, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Erbil, la capitale régionale, ajoutant « Le partenariat avec Bagdad a échoué et nous n'y retournerons pas ». Cependant, Massoud Barzani a assuré que le résultat du scrutin ne changera rien dans l'immédiat, mais qu'il déclencherait plutôt des pourparlers avec Bagdad sur une indépendance future. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a fait savoir de son côté qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver l'unité du pays. Déjà, le gouvernement irakien a demandé à tous les pays de ne traiter qu'avec lui pour les transactions pétrolières. À la demande des autorités irakiennes, l'Iran a cessé dimanche ses liaisons aériennes avec le Kurdistan irakien.
Merci de votre attention.